半个月亮爬上来，一来啦，爬上来，照着我的姑娘梳妆台，一来啦，梳妆台。
Laissez fleurir la passion, s'écrie Huang Tilai, cadre politique responsable de la fête. Cueillez l'amour pour rendre la vie plus belle. En plein Zhejiang, province côtière à 1 heure de Shanghai, la scène bucolique au bord d'un lac rassemble une 50aine de filles et garçons sur leurs 25 ans à l'ombre de pêchers en fleurs. Soigneusement organisée, la fête champêtre alterne discours, pique-nique, musique dansante et petits jeux de groupe, tous destinés à briser la glace et favoriser le rapprochement ou plus si affinité. Parmi ceux-ci, la course de groupe où un gars et une fille ont une de leurs jambes attachées ensemble au risque de faire la culbute, ou des jeux de massacre où le couple doit abattre, avec des balles de tennis, des pyramides de boîtes vides, à deux bras, un de chaque joueur, lié par un ruban rose.
Pan ge yue liang pa shang lai, yi lai la, pa shang lai.
Déroulée fin mars 2024, cette scène décrite par mon collègue du Monde à Shanghai, est donc très récente. Les jeux de cette scène sont très courants en Chine, banals même. Mais ce qui peut surprendre est le but de toute l'opération commanditée au sommet depuis Pékin. L'organisateur est rien moins que le Parti communiste lui-même, par l'entremise de son syndicat unique, de la Fédération des femmes et de la Ligue de la jeunesse, organisation que l'on connaissait plus jusqu'alors pour leur aspect niant-niant et pas du tout sous cet aspect olé-olé. L'objectif est un genre de speed dating étatique, inspiré des fiançailles spontanées, des mariages sans retard et cerise sur le gâteau, un bébé, beaucoup de bébés triomphant dans leur berceau sous les yeux du clan attendri et les bravos des 80 millions de membres du parti. Lequel parti opère un revirement à 100% par rapport à son planning familial d'antan, où il s'efforçait de sabrer les pulsions du peuple à s'assurer sa descendance. Le planning avait pendant 40 ans limité les naissances à un enfant par couple. Aujourd'hui, il cherche à relancer la pompe à bébé. Remontons un instant l'histoire chinoise. Pendant ces 4 décennies d'activité, à force de campagnes de persuasion, de stérilisation, d'amendes énormes et d'avortements forcés pour les couples contrevenants, ce planning familial se targuait d'avoir économisé depuis 1976 quelques 200 millions de bébés, chiffre énorme par rapport à ces 700 millions d'habitants existants à ses débuts. Ce n'était que 40 ans plus tard, en 2016, que le régime avait aboli sa règle d'un enfant par couple en autorisant un second enfant, puis un troisième, 2 ans plus tard. Entre-temps, d'autres mesures apparaissaient ça et là dans les provinces comme des ballons d'essai pour relancer la démocratie. Telle ville lançait à destination de ses célibataires une application de rencontre sur smartphone. Telle autre permettait soudain d'enregistrer légalement des bébés déclarés par des femmes seules ou par des couples non mariés. C'était jusqu'alors interdit. À Wuhan, capitale du Hubei, tel vieux sculpteur fut tiré d'urgence de sa retraite pour modifier sa statue d'un couple heureux avec son enfant unique. Pour satisfaire les attentes du parti, il leur adjoignait 2 moutards supplémentaires. Tel district de l'Est chinois offrait une prime de 1000 yuan, soit 130 euros, à tout mariage avec marié de moins de 25 ans, l'âge estimé idéal pour procréer. D'autres districts offraient aide gynécologique, prime au logement, allocation scolaire, impôts allégés pour la mère en congé de maternité, prime à l'embauche de jeunes femmes nubiles pour les patrons. En même temps, les ouvertures de crèches se multipliaient. D'une façon plutôt comique, les 6 millions d'agents du planning familial qui, jusqu'à hier, jouaient aux flics zélés veillant à empêcher les naissances, s'étaient mués dans la nuit en défenseurs farouches de la procréation. Désormais, leur mission consistait à passer de porte à porte pour prodiguer les conseils aux jeunes couples, pour les inciter à écouter leurs instincts procréateurs, pour laisser faire la nature et laisser apparaître l'enfant du miracle.
Pan ge yue liang pa shang lai.
L'ennui, c'est que ces efforts ne marchent pas. Les résultats, après 8 ans de relaxation du planning, sont plus que décevants, angoissants pour le régime. L'an passé, la Chine a conçu 9 millions de petits, en chute de 6% sur 12 mois, et de 300% depuis 1987, qui comptait alors 25 millions de bébés. À l'inverse, l'an passé, les décès nets ont atteint 11 millions en hausse de 6%. De la sorte, la population nette a régressé de 2 millions sur un an et de 3 millions en 2 ans. Les instituts de démographie lancent l'alerte. Si rien ne change d'ici 2100, ce peuple chinois sera redescendu de 1,4 milliard aujourd'hui à 525 millions, soit une perte de plus de la moitié. Pour les usines, les services et les campagnes, les conséquences seront cataclysmiques, avec une population active réduite des 3/4 à 210 millions. Pour le paiement des retraites, la situation sera devenue également impossible, avec dès 2035 une cohorte de sexagénaires gonflée de 280 à 400 millions. Dès 2077, le nombre de ces retraités sera devenu supérieur à la population active, dont on ne voit pas comment elle pourra supporter tant de vieilles bouches à nourrir, de vieillards à loger, à habiller, à soigner. D'ailleurs, c'est tout simple. Dès 2035, la Caisse nationale de retraite sera vide, incapable de faire face aux hordes de vieux se pressant derrière sa porte.
Pan ge yue liang pa shang lai, ilai la pa shang lai.
Ce qui se passe est que la Chine d'aujourd'hui réalise l'erreur de ses aînés un demi-siècle plus tôt. Le planning familial a déséquilibré la pyramide des âges, celle qui, partout sur Terre, fait payer par les jeunes générations les pensions des vieux, avec le soutien des cotisations payées toute leur vie active. 40 ans de planning autoritaire a éteint chez les jeunes l'envie de faire des enfants et même de se marier. Le chiffre de 2022 est très explicite. 6,8 millions de couples ont prononcé le mot « oui » devant l'officier d'état civil. Ce sont 800 000 couples de moins que l'année d'avant. Certes, le Covid explique en partie ce recul avec ses confinements de l'époque et depuis, la Chine a un peu remonté la pente, réalisant l'année d'après 12% de mieux et 7,7 millions de mariages. Mais ce petit regain ne signifie que les unions retardées par le Covid et ne durera pas. Il n'altère pas non plus la tendance générale, très loin des 13,5 millions de cérémonies nuptiales de 2013, l'année record. Définitivement, la Chine est entrée dans une ère nouvelle où on se marie moins, où l'on enfante moins. Le coût exorbitant de l'éducation et de la vie d'un enfant font que les jeunes préfèrent penser à eux-mêmes plutôt qu'à l'avenir de la nation. Le coût inaccessible des appartements n'arrange rien. Désormais, des millions de jeunes adultes doivent rester logés chez leurs parents faute de pouvoir se payer leur logement autonome. Le régime, pourtant, refuse toujours d'envisager l'instauration d'allocations familiales, préférant garder son argent pour équiper son armée, son programme spatial ou ses routes de la soie. Et ce ne seront pas les homélies de Xi Jinping qui vont changer les choses, adjurant les jeunes chinoises dans le vent de, je cite, « porter activement une nouvelle culture du mariage et de la maternité ».
Pan ge yue liang pa shang lai.
Un des problèmes autour du mariage est hérité de la culture antique. Quand j'étais à Pékin, ma Aï, ou femme de ménage, déplorait amèrement d'avoir un fils, et elle enviait ses copines ayant une fille à marier. En effet, pour marier son garçon, ma nounou avec son mari, allait devoir cracher de véritables fortunes au clan de la demoiselle élue qui s'apprêtait à la vendre au prix le plus fort. En théorie, elle aurait dû fournir une lourde dot en argent, voire l'appartement à des centaines de milliers d'euros, plus le coût de la noce dépassant souvent les 15 000 euros, tandis que les parents de la fille ne devraient payer que la voiture. L'État tente de circonscrire le problème en proposant des campagnes de renonciation à la dot. Dans le Jiangxi, la ville de Guixi a lancé un concours de la meilleure belle-mère, celle qui aura réduit le plus ses prétentions financières au nom du bonheur futur du jeune couple. Mais évidemment, des parents ayant investi toute leur vie sur cette rente de leurs vieux jours ne voudront pas et ne pourront pas faire sur elle une impasse. Il faudra beaucoup de temps dans cette société depuis 1500 ans de tradition confucienne pour arriver à faire accepter ce changement qui sera un nouveau rapport interfamilial doublé d'une révolution humaniste.
Pan ge yue liang pa shang lai, yi lai la, pa shang lai.
Au fait, une petite remarque au passage. Comme on vient de voir, après avoir bloqué durant tant d'années la liberté d'enfanter, le parti orchestre un spectaculaire demi-tour à 180 degrés en tentant soudain de la favoriser. Il le fait comme si c'était la plus simple et normale chose au monde, comme si de rien n'était, sans s'estimer un instant redevable envers le peuple d'une explication. Et surtout, sans jamais admettre qu'une faute a été commise. Ça ressemble un peu à la gouvernance du Covid par Xi Jinping, qui par deux fois en 2020 et 2022 a imposé des mois de confinement à toute sa population jusqu'à provoquer une explosion de toute la nation, avant de le relâcher brusquement en décembre 2023 sous l'émeute générale. Là encore, sans un mot d'excuse. Pour Xi Jinping, comme pour tout membre du parti, le parti, leur maison mère, est la statue du père, la statue du commandeur qu'on doit honorer en tout temps et toutes circonstances. Personne au sein de l'appareil, et Xi Jinping moins que tout autre, ne peut s'arroger le droit de contester le mythe de l'infaillibilité du parti qui ne se trompe jamais, seul en état de subvenir par sa sagesse aux attentes et aux besoins du peuple. Personne ne peut oser agiter la barque simplement parce qu'elle est surchargée au point de chavirer au moindre mouvement. C'est pour sauver l'ensemble qu'il faut se taire et faire taire quiconque. Au fond, le PC applique la même règle implacable et violente aux dissidents et à lui-même.
Pan ge yue liang pa shang lai.
Mais justement, cette obstination et cette manière autiste de tout décider tout le temps sans consultation extérieure ou presque se paient par ces erreurs que sont la disparition des jeunes et le refus par ceux qui restent de coopérer, la perte de dizaines de millions d'emplois, la pollution majeure de l'air et de l'eau, etc., etc. Les jeunes Chinois en général ne voient plus trop pourquoi se marier et l'impératif de le faire pour satisfaire leurs parents les laisse toujours plus indifférents. Ils préfèrent, pour ceux qui ont un emploi, vivre leur jeunesse, sortir ensemble, se consacrer à leur propre réalisation, étudier davantage, investir dans une entreprise, dans leur carrière, garder leur argent pour eux et en jouir seul. Chacun pour soi, tel est le maître mot de la Chine de demain et un échec flagrant pour le régime qui prêche depuis toujours le contraire, à savoir le sacrifice héroïque de soi au parti et à la nation. Dans cette tendance, les filles sont à l'avant-garde. Il faut bien dire qu'elles en ont lourd sur la patate. Dès la naissance, elles ont été discriminées. Dans les campagnes les plus pauvres, elles sont restées avec les parents à travailler au champ quand les garçons allaient à l'école. Pour l'entrée à l'université, la priorité aux garçons a longtemps été respectée. Des métiers entiers leur ont été fermés, à commencer par la carrière politique, où un plafond de verre les empêche de dépasser un certain grade. Pour le salaire, elles touchent invariablement moins que les hommes, sous le prétexte fallacieux qu'ils auraient, eux, la famille à charge. Une fois mariées, outre leur emploi, elles ont à assumer seules les courses du foyer, la cuisine, le ménage, l'éducation de l'enfant. Souvent, le mari a prétendu leur prendre leur salaire. Aux dernières nouvelles, deux tiers à trois quarts des foyers connaissent la violence conjugale dont elles sont les victimes. Toutes ces injustices les poussent lentement mais sûrement à refuser le mariage pour préserver leurs chances dans la vie. En 2021, 44% des filles de 18 à 24 ans interrogées se disaient opposées au mariage contre 19% chez les garçons. Et donc, les garçons sont plus demandeurs et pire, du fait des avortements sélectifs qui faisaient rage 20 ans plus tôt, ils trouvent face à eux une cohorte de filles 10% moins fournies que la leur, condamnant d'avance au célibat 30 millions de jeunes hommes. Dans leur longue marche à l'émancipation, les filles du Céleste Empire ne s'arrêtent pas au refus de convoler. Elles divorcent en plus. Aujourd'hui, une des dernières modes consiste pour des femmes sur la trentaine à célébrer entre copines leur divorce comme autant de fêtes de leur vie nouvelle. Dans une salle de karaoké avec des ballons, des confettis et des agapes, elles proclament la victoire. Une bannière rouge traverse l'espace qui crie ce message. La vie n'est qu'une immense piste d'envol. Sois brave, envole-toi. Dans les statistiques, le résultat est sans appel. En 2023, les divorces par consentement mutuel séparaient 2,6 millions de couples, 500 000 de plus que l'année précédente. Et pour les divorces en litige, l'État préférait ne pas donner de chiffres.
Pan ge yue liang pa shang lai, yi lai la pa shang lai.
En conclusion, que penser de tout cela ? Tout d'abord, la réduction des naissances, le vieillissement de la société, le rejet du mariage, la hausse des divorces et l'émancipation féminine irrévocable, toutes ces tendances sont le lot de tous les pays à économie mature. Mais la différence entre eux et la Chine est que tous ces pays sont riches et stables, tandis que la Chine est en mutation endiablée et vieillit avant d'avoir eu le temps de s'enrichir. Pour changer la donne, tous les observateurs en sont d'accord, le parti ne pourra plus faire l'impasse sur des réformes politiques d'ampleur, comme la fin du monopole du parti sur la pensée publique, sur l'allocation du crédit, sur l'allocation des terres, sur la reconnaissance du retour d'une bourgeoisie nouvelle avec laquelle il va falloir partager le pouvoir. Au cours des 35 dernières années, l'aile dure du parti s'est arc-boutée contre cette évolution qui menaçait ses privilèges. C'est la raison profonde pour laquelle elle a mis à sa tête un dur parmi les durs, Xi Jinping, comme dernière muraille de son intransigeance. Mais les choses changent. Cette année, les rumeurs et nouvelles officielles s'accumulent pour signaler un changement d'attitude, ou plutôt de ligne idéologique. Tout se passe comme si Xi Jinping se trouvait tacitement lâché par de nombreux cadres de tous bords, et comme si les écueils s'accumulaient au point de le forcer à lâcher du lest pour éviter de se retrouver en minorité ou pire. Dans les médias chinois, un article anonyme apparaît ces derniers jours, émanant visiblement des sphères supérieures du régime, qui annonce un changement de cap en profondeur. Les loups combattants disparaissent, ces ambassadeurs agressifs qui s'ingéniaient à faire enrager les opinions publiques d'Europe et d'Amérique. Le socialisme chinois se veut désormais souriant, prêt à tout pour inverser la tendance isolationniste et confrontationnelle que Xi a imposée ces cinq dernières années. Selon cette source, le pouvoir apparaît résigné à ce que la Chine ne puisse plus résoudre seule ses problèmes, vent debout contre l'Amérique, l'Europe, mais aussi le Japon, l'Inde et d'autres. Il serait temps, dit-on, de rebâtir l'image de partenaire fiable créée par Deng Xiaoping pendant les 30 dernières années et dilapidée par Xi Jinping durant deux quinquennats.
Pan ge yue liang pa shang lai.
Alors, soyons vigilants et faisons le bilan. Cette Chine en pleine crise apparaît en fin de règne, dans une époque charnière. Si l'avenir reste illisible, le présent, lui, devient de moins en moins supportable. Gardons-nous, au demeurant, de nous réjouir de sa vulnérabilité. Si la Chine prend froid, l'Europe s'enrhume, et une Chine en désespoir peut être tentée par des solutions catastrophiques, comme aller attaquer Taïwan ou se ranger militairement aux côtés de la Russie de Poutine. Mieux vaut, tout compte fait, aider cette Chine en pleine tempête et le faire vite. Dans les prochaines années, faute de jeunesse, la Chine va être obligée de réduire son rythme de travail de 49 heures par semaine en moyenne. La locomotive chinoise ralentira, s'arrêtera peut-être. Et nous, dans les wagons derrière, qu'allons-nous faire? Il est temps pour nous de commencer à nous poser la question. Et sur ce, les amis, je vous salue. Transmettez-moi, si vous voulez, vos remarques et réflexions à mon nom, Eric Meyer, sur LinkedIn ou Facebook. À bientôt!
Pan ge yue liang pa shang lai, yi lai la pa shang lai. 照着我的姑娘梳妆待, 依赖了梳妆台。